je voudrais me concentrer sur un cas juridique récent. Une loi adoptée en mars 2017 en Nouvelle-Zélande pour vous proposer donc une réflexion pour l'instant très élémentaire sur ce que pourrait être une stratégie juridique des milieux communs. Une stratégie juridique des milieux communs. Alors, étant ni juriste, ni écologiste, ni anthropologue, et n'ayant pas fait non plus d'enquête de terrain, je suis très bien situé pour aborder cette question de manière complètement sauvage, donc ça me laisse une certaine liberté, mais je compte surtout sur les juristes, il y en a peut-être quelques-uns cachés dans la salle, ou alors sur les connaisseurs éventuels de la Nouvelle-Zélande, pour corriger ou compléter certains aspects de cette réflexion. Alors, il ne vous a sans doute pas échappé que l'écologie, comme le commun, sur lequel on discute depuis un moment, s'occupe tous les deux de la relation entre un milieu et un collectif, tentant de comprendre et de redéfinir leurs relations. Et en effet, sur le plan juridique, où se mènent les batailles des communs environnementaux, il s'agit, il me semble, de revendiquer non pas exclusivement les droits d'un sujet humain, qui serait propriétaire des êtres naturels, non plus d'un objet naturel, qui serait les biens communs donc réifiés, mais de leurs relations, à travers l'exploration justement de ce qu'on pourrait appeler leur milieu commun. Un milieu commun où les composants biophysiques du milieu fournissent les conditions d'existence des humains qui se chargent à leur tour de faire vivre ces composants. En tout cas, c'est une définition juridique de ce type que j'aimerais essayer d'analyser aujourd'hui avec vous. Alors, il pourrait y avoir deux avantages, j'espère, ou de retombées philosophiques et politiques aussi de cette conception juridique du milieu commun. D'abord, les impasses d'une écologie un peu désuète maintenant, qui voulait poser l'humain en face d'une nature à protéger, pourraient être évitées si on arrivait à penser ce milieu commun comme une entité où les collectifs et le milieu sont juridiquement inséparables. Et puis, on peut aussi se demander si penser en termes de milieu commun nous permettrait de formuler, comme étant une revendication assez forte en écologie politique, l'extension des droits des humains au-delà des humains, donc vers les conditions de leur existence, à savoir aux êtres biophysiques qui les entourent. Donc je propose d'aborder ces questions très vastes en partant d'un cas spécifique, de ce cas juridique récent qui a pas mal attiré l'attention, donc l'attribution du statut de personnalité juridique à la rivière Whanganui en Nouvelle-Zélande, très précisément le 15 mars 2017. Donc le 15 mars 2017, la rivière Whanganui est reconnue comme entité vivante ayant le statut de personne morale par le Parlement de Nouvelle-Zélande au bout d'un combat de longue haleine mené par les Maoris qui voient dans cette rivière une ancêtre. Et il me semble qu'il s'agit ici non pas d'un cas quelconque de protection de la nature, ni d'un combat exclusivement ethnique visant simplement la reconnaissance des droits autochtones, mais d'un cas juridique tout à fait singulier, où les droits d'un collectif humain se trouvent étendus ou élargis à un milieu biophysique suite à un combat politique. Donc c'est là-dessus que j'aimerais insister, et j'aimerais aborder cette loi adoptée par le Parlement de la Nouvelle-Zélande en tant qu'une figure juridique de milieu commun, car malgré quelques limites que je signalerai, il me semble qu'elle nous permet de penser le commun en écologie politique, non pas comme un principe de gestion de biens communs, mais comme le rapport actif d'un collectif à un milieu dont il est inséparable. Donc plutôt que de rester dans un rapport soustractif où on se contenterait d'extraire des biens communs naturels, les biens communs naturels du domaine de la propriété privée ou publique, on pourrait alors apercevoir dans le commun un principe politique d'auto-organisation des milieux. Bien sûr, alors après les deux exposés qui soulignaient les ambiguïtés politiques et les problèmes liés, disons, à la non reconnaissance des rapports de pouvoir entre les humains. Je suis plutôt dans l'autre côté, hein, une lecture optimiste, mais surtout stratégique en fait, de ce qu'on peut faire avec le droit, avec un droit artificialiste, hein, qui permettrait de créer des entités mixtes dans cette réflexion sur le commun. Donc très rapidement, hein, je vais essayer d'examiner les principaux enjeux de la loi promulguée par le Parlement de la Nouvelle-Zélande. Donc, vous pouvez le lire sur le site du ministère de la Justice de Nouvelle-Zélande, et c'est mon seul appui, hein, dans ce travail élémentaire. Ce texte de loi qui fait à peu près 100 pages, qui est assez nouveau, donc il me semble que, enfin, j'ai trouvé quelques articles scientifiques, mais le cas est assez récent comme foi. Je vais essayer d'extraire, de souligner quelques aspects qui me paraissent importants dans ce texte de loi. Alors, si l'affaire intéresse les juristes, surtout du point de vue de l'extension du concept de personne juridique, hein, à ceux qui avaient auparavant le statut de propriété, d'autres dimensions importent aussi quant à la stratégie du commun. Et donc, je vais retenir trois aspects, hein, de cette loi. Premièrement, l'inséparabilité juridique du collectif humain avec les éléments biophysiques. Deuxièmement, le régime de propriété, qui est source de conflits politiques, hein, dans cette affaire, et qui permet d'insérer ce cas de la rivière Whanganui dans nos débats sur le commun et sur le débat sur les modes de propriété. Et enfin, la transition du régime de la protection de la nature vers un nouveau régime, disons, de milieu commun, et qui a son importance, bien sûr, concernant les débats en écologie politique, hein, quant aux problèmes historiques soulevés par la protection de la nature, puisque les populations locales ont été, dans certains cas, exclues des endroits protégés. Donc la loi en question, au fond, c'est la première chose qu'on remarque quand on lit la loi. Elle s'appelle Te Awatupua, ce qui signifie, en langue maori, l'ensemble indivisible et vivant, englobant tous les éléments physiques et métaphysiques de la rivière. Alors, cet aspect relève directement de la reconnaissance de la cosmologie maori. Et alors, il indique qu'il s'agit de protéger non pas simplement un élément naturel, mais surtout la relation, hein, des collectifs humains Iwi et Hapu à la rivière Whanganui, dont il pense qu'elle les soutient physiquement et spirituellement. Donc, il y a un excès, si vous voulez, de l'entité reconnue par la loi sur l'élément géographique ou physique qu'est la rivière. Ce n'est pas seulement l'élément naturel qui est protégé, c'est la relation du collectif à son milieu qui est reconnue et comme une entité unique. Et en fait, dans les détails, hein, la loi reconnaît deux composants de la rivière. Il y a un composant biophysique qui comprend bien sûr le cours d'eau lui-même, de la montagne jusqu'à la mer, puisqu'il s'agit quand même d'une rivière assez importante, en taille, si je puis dire. Le lit de la rivière, les vivants qui s'y trouvent, tandis que le composant humain comprend celles et ceux qui, je cite la loi, exercent les droits et les responsabilités coutumiers à l'égard de la rivière Whanganui. Donc principalement ces peuples Iwi et Apu. Alors évidemment, je signale en passant une limite de la réflexion que je propose, qui est que n'ayant pas fait de terrain, par exemple, j'ignore complètement les rapports de pouvoir entre ces deux de peuples ou de collectifs, et je n'ai pas réussi à trouver sur cette loi des éléments de réflexion, mais peut-être que vous avez certains éléments, on pourrait en discuter. Donc, je me concentre encore une fois sur ce que propose la loi et ce qu'on pourrait en tirer en termes de stratégie politique. Et donc, ces deux composants, en tout cas, hein, biophysique et humain, constituent Te Awa Tupua, hein, l'entité collective. Et je cite l'article 13 de la loi qui définit Te Awa Tupua comme l'entité spirituelle et physique qui soutient à la fois la vie et les ressources naturelles de la rivière Whanganui, ainsi que la santé et le bien-être des Iwi, Hapu et les autres communautés de la rivière. Le même article, à mon avis central, hein, de la loi, l'article 13, stipule aussi que les Iwi et les Apu de la rivière Whanganui ont un lien inaliénable et une responsabilité à l'égard de Te Awatupua, sa santé et son bien-être. Et enfin, toujours selon le même article, Te Awatupua est une entité singulière composée de plusieurs éléments et communautés travaillant de manière collaborative pour leur objectif commun, qui est la santé et le bien-être de Te Awatupua. Et enfin, cet ensemble indivisible est représenté juridiquement par ce qui s'appelle l'aspect humain de la rivière, donc composé de deux personnes, l'une nominée par l'État et l'autre choisie par le peuple Iwi et Apu. Donc voilà très globalement pour la structure de la chose. Alors, il me semble que c'est intéressant, au fond, il faudrait prêter attention à l'excès que constitue l'appellation Te Awatupua en tant que milieu commun, comprenant à la fois les humains et les éléments biophysiques, l'excès qu'il constitue sur la simple appellation Whanganui, car ceci indique qu'il n'est pas simplement question d'une rivière au sens strictement physique et géographique. J'insiste sur ce point parce que ce dont il s'agit et ce que vient nommer ici Te Awatupua est cette entité composée à la fois d'humains et de non-humains, réunis par une finalité commune, qui est précisément le bien-être du milieu commun. Donc selon une logique circulaire assez singulière et à mon avis assez intéressante. Et donc ce n'est pas la rivière elle-même, mais ce milieu commun qui se trouve doté du statut de personne juridique. Autrement dit, au fondement de cette loi existe un principe d'inséparabilité des éléments naturels et humains à l'égard de leur rôle constitutif du milieu qui leur est commun. Et d'ailleurs, on comprend lorsqu'on lit les témoignages maoris que leur objectif politique, au fond, c'était de faire reconnaître ce caractère indivisible de la rivière en tant que milieu singulier dont ils sont inséparables. Et d'ailleurs, il y a une formule très intéressante qu'on voit dans les entretiens. Ils disent, au fond, on a essayé de faire accepter donc aux Blancs, si je puis dire, approximativement, parce qu'ils savaient que finalement c'était très difficile pour les autres de reconnaître dans l'ensemble cette cosmologie, où finalement on voit que la rivière possède aussi un caractère spirituel. Donc ils disent finalement on a fait une sorte de négociation et on a réussi approximativement à avoir une entente et qui nous satisfait. Donc par exemple, l'expression maori, je suis la rivière et moi, est inscrite dans la loi, et ce n'est pas simplement une formulation poétique, mais donc l'expression d'une cosmologie selon laquelle le bien-être et la santé du collectif humain et ceux de la rivière ne peuvent être considérés séparément. Alors, ça a des conséquences tout à fait concrètes, puisque les Maoris ont obtenu que tout dommage porté à la rivière soit considéré comme un dommage porté au collectif, car il ne se sépare pas justement d'autres composants de cette rivière. Et la loi reconnaît ce principe d'inséparabilité. C'est dans cette mesure que il me semble que les droits humains ici se trouvent étendus aux éléments biophysiques d'un milieu selon cette logique d'inséparabilité, dont il serait intéressant de discuter la portée politique plus générale. Ce qu'on peut en espérer et quelles seraient aussi évidemment les limites si on inscrit ce débat dans la continuité de deux exposés qu'on vient d'écouter. Donc il me semble cette perspective me paraît très intéressante, tout en soulignant évidemment les limites éventuelles liées au rapport de force interhumain. Que je n'ai pas étudié. Mais la question que j'aimerais soulever, c'est de savoir si cette stratégie d'inséparabilité, à savoir la revendication de l'extension de nos droits en tant qu'humains au milieu commun, pourrait-elle devenir un levier politique mobilisable dans d'autres contextes ou pas. Alors, on va en discuter. J'aimerais dire quelques mots sur la matérialité des terres en question, sur le mode de propriété. Et en lisant la loi, on remarque que son enjeu principal Et sans doute le fait que la couronne, donc le gouvernement néo-zélandais, cède à Vatupua les terres qu'elle possédait auparavant. Donc ce qui était propriété de l'État et devient maintenant une terre inappropriable, gérée collectivement donc par ce qui s'appelle l'aspect humain de la rivière. Encore une fois, donc un comité. Il y a un comité où il y a des représentants de l'État, au fond, qui étaient jadis responsables de la protection de la nature. Hein. Donc, c'était un parc naturel. Enfin, une partie de des terres en question était dans les limites d'un parc naturel, protégée à ce titre. Et ces terres ne cessent pas d'être protégées avec le nouveau statut. Sauf que la gestion de ces terres se trouve transformée. Mais donc les représentants de l'État sont toujours là pour veiller, si vous voulez, sur pour qu'il n'y ait pas de dommages, pour qu'il n'y ait pas de nuisances sur ces terres. Alors, l'article 41 et 42 précisent que ces terres ne pourront plus faire l'objet de transactions. Hein, ce qui les rapproche justement du statut de terre inappropriable, en accord d'ailleurs avec la cosmologie maori. Le statut n'implique pas certes une altération des droits de la propriété privée déjà existante, mais au fond on comprend que le régime de propriété privée ne concerne pas une partie importante de la territoire. Et il est stipulé également que l'eau elle-même, ainsi que la vie biologique, aquatique, botanique, etc., ne sont pas concernés par le changement de régime de propriété. On bute ici à la question complexe du régime de propriété, et qui, dans cette affaire, fut à la source des conflits politiques et de certaines interprétations malveillantes. Par exemple, vous avez un politicien de droite qui dit la chose suivante en 2012, hein, qui l'aurait cru, chanter une chanson peut faire qu'une rivière vous appartienne. En fait, sans surprise, hein, les tenants disons, de l'individualisme possessif interprètent la loi comme une régression de la propriété privée devant les revendications illégitimes, cosmologiques et complètement obscures des Maoris, qui s'appuieraient donc sur les mythes obscurs pour, en fin de compte, s'approprier les terres publiques. Son cri, c'est un cri d'injustice, puisque il dit au fond, ce politicien, nous aussi on peut chanter des chansons, mais quand on chante des chansons, ou alors quand on dit qu'une rivière nous protège, eh bien nous avons pas la propriété de cette rivière, tandis que eux, finalement, dans les faits, hein, les Maoris, dans les faits, contrôlent à présent une eau, par exemple, qui coule, ainsi que les terres. Plus précisément, en 2012, hein, il y avait en fait il y a un accord de 2012 déjà, avant la loi de 2017, et qui reconnaît la rivière comme une entité vivante qui ne peut être possédée dans un sens absolu. Ce qui est intéressant dans cet accord de 2012, c'est que un tribunal local fait la remarque suivante, hein, il dit, bien que les Maoris aient véritablement possession et contrôle du territoire, avant la loi, ils ne se voient pas comme tels, car ils se considèrent eux-mêmes comme les usagers de quelque chose qui est contrôlé et possédé par les dieux. Et au même moment, donc toujours en 2012, hein, le Premier ministre néo-zélandais déclare que personne ne peut posséder l'eau, justement pour dire que ce changement de statut de propriété n'accorde pas aux Maoris la propriété de l'eau. Mais quand on regarde la décision du tribunal en 2012, hein, du tribunal local, le tribunal dit, au fond, les Maoris possèdent la rivière, ou plus exactement, l'eau fraîche qui y coule. Donc on voit, au fond, dans ces années-là, une certaine confusion, hein, puisque on voit, il y a la question de à qui appartient réellement cette terre, qui contrôle vraiment cette terre-là. Donc là, on a une confusion entre les droits d'usage, il me semble, des terres, et donc droit absolu, hein, de possession. Ce conflit politique permet évidemment de considérer cette affaire dans le cadre des débats sur le commun, hein, comme mode spécifique de propriété, refusant l'alternative de la propriété publique ou privée. Dans la mesure où les Maoris se déclarent usagers du milieu commun, au même titre que les autres éléments qui le composent, il est, pour ainsi dire, hors sujet pour eux de vouloir posséder les terres en question. Au fond, ils veulent préserver le bien-être d'un milieu dont ils font partie pour préserver aussi leur bien-être à travers cette logique circulaire étrangère finalement à la logique capitaliste qui implique au contraire d'établir des parcelles de terres cessibles. Ce que je trouve intéressant dans cette loi, c'est une logique d'unification au fond de ce que la logique capitaliste essaye de, au contraire de diviser. Non, c'est-à-dire que là où un droit spécialisé en propriété privée divise un territoire pour mieux en distribuer la propriété, de manière à établir une analytique des biens hein, qui séparent par exemple le cours d'eau, les gisements des minéraux, le lit de fleuve et les terres, et les Maoris recollent, pour ainsi dire, les morceaux d'un milieu, puisque la loi unifie non seulement les rivières Whanganui qui coulent de la montagne jusqu'à la mer, mais y ajoute aussi le bien-être et la valeur spirituelle du milieu commun. Donc il y a aussi une opération d'unification hein, qui va inclure les Maoris eux-mêmes dans ce milieu, dont, encore une fois, ils ne réclament pas la propriété, mais le bien-être, dans cette logique tout à fait caractéristique, à mon avis, du mouvement des communs, puisqu'ils revendiquent, en tant qu'usagers, la participation aux choix fondamentaux pour la gestion de milieux, et non pas, encore une fois, sa propriété. Enfin, et c'est le dernier point que je voulais souligner, il importe de constater que se trouvent abolis les divers statuts de protection de la nature par lesquels la rivière était gérée jusqu'à cette loi, le parc naturel qui englobait Whanganui, ainsi que les zones de conservation, ont été donc remplacées par l'établissement du milieu commun Te Awa Tupua. Et ainsi, à l'ancien régime juridique visant la protection d'une nature chosifiée en parc, hein, qui a historiquement posé la question du non-accès des populations autochtones aux espaces naturels protégés, se substitue au nouveau régime juridique caractérisé par la non-séparation des éléments biophysiques avec les humains. Ce qui est intéressant, évidemment, du point de vue de l'histoire de l'écologie politique. Et donc le déplacement est de taille, car désormais il ne s'agit pas de protéger la nature en la purifiant des êtres humains, mais de reconnaître que le bien-être d'un milieu commun ne peut être assuré qu'à travers une coactivité. Une coactivité des éléments biophysiques qui soutient la santé et le bien-être des communautés humaines de la rivière, qui à leur tour sont responsables hein, à l'égard du milieu commun pour son maintien. Donc il me semble que ce n'est pas la valeur intrinsèque d'un bien naturel qui est reconnu comme on a pu le penser parfois sur cette affaire, mais la relation entre un collectif et son milieu, d'ailleurs auquel tout un article de la loi est consacré, mais je ne vais pas m'attarder dessus, je vais rapidement conclure. Il me semble significatif que cette bataille juridique menée par les Maoris ne s'inscrit pas dans le cadre de la protection de la nature, hein, mais dans le cadre des droits de l'homme, au fond. Ce qui est aussi un aspect intéressant, des droits de l'homme, mais qui concernent décidément beaucoup plus que les droits des humains exclusivement. De manière donc assez inattendue, plutôt que la création d'un droit de la nature qui serait extra-humain, au-delà des humains, purifié des humains, l'écologie politique gagnerait ici à défendre les droits des humains qui revendiquent leur non-séparation des milieux biophysiques, lesquels constituent justement leurs conditions d'existence. Et c'est intéressant parce que sur le plan juridique, il est question depuis quelque temps hein, de la possibilité d'un troisième pilier de droit de l'homme qui serait consacré justement au droit à un environnement sain qui appartient à chaque personne. C'est en ces termes que le débat est posé. Tandis que ici, plutôt que d'individualiser un droit à l'environnement, il s'agit de penser, encore une fois, un milieu commun. Qu'est-ce que ça serait un statut juridique attribué au collectif mixte hein, plutôt qu'aux individus humains. Il me semble que c'est ça la question de fond qui se pose. Alors, c'est dommage qu'on discute de ce cas à travers un appareil conceptuel assez désuet, car il ne permet pas de saisir la spécificité de la bataille menée par les Maoris. Catherine Larère, par exemple, dans un article qu'elle a consacré à la question, écrivait qu'il s'agissait ici de la personnification de la nature et que c'était l'illustration de l'idée selon laquelle la protection de la nature devait s'appuyer sur une culture locale. Là, il me semble que ces interprétations restent finalement dans les limites d'une vieille logique de la protection de la nature, sauvage, hein, qu'on propose de personnifier et, ou qu'on associe à une culture locale, tandis que le combat politique, ici, consiste précisément à contourner hein, le face à face de la nature avec la culture à travers ce principe d'inséparabilité. Donc, il me semble que ce n'est pas la personnification de la nature, mais une unification juridique des éléments biophysiques avec les humains qui est instituée comme stratégie politique du milieu commun. Alors, évidemment, on pourrait, et je conclue rapidement là-dessus, on pourrait objecter à cette perspective, évidemment, le caractère spécifique du cas Van Gennuyt dans la mesure où il s'agit finalement de reconnaître ce qui est sacré pour les Maoris. Et donc, on peut se demander s'il n'y aurait pas, évidemment, des limites qui proviennent du caractère sacré. Hein. Est-ce que dans des contrées moins exotiques comme chez nous en Europe, quel peut être l'équivalent, au fond, caractère sacré? Est-ce qu'on doit chercher un caractère équivalent? Mais il me semble que là où il s'agit de la reconnaissance d'une cosmologie en Nouvelle-Zélande, il pourrait s'agir de la reconnaissance d'un principe philosophique, hein, d'un acquis, par exemple, obtenu à l'issue d'un combat politique, ou encore d'un acquis des connaissances scientifiques, impliquant de nouer d'autres rapports au milieu. Et il me semble que le droit pourrait tout à fait reconnaître des manières alternatives de nouer des rapports au milieu si les batailles politiques sont à la fois tenaces, justifiées et organisées. Comme nous le montre le cas de la rivière Van Gennuyt, on n'est pas condamné au fond à un monde où existeraient d'une part les humains avec leurs droits, et leurs droits de propriété évidemment, et d'autre part un environnement naturel séparé d'eux qu'on pourrait décider de protéger ou pas comme un bien. Un milieu commun pourrait être défini comme l'ensemble juridiquement inséparable d'humains et d'éléments biophysiques qui se soutiennent les uns les autres, où le collectif humain assure la reproduction de ses propres conditions d'existence. Il ne s'agit pas de défendre les droits d'une nature extérieure, encore une fois. Donc où le collectif humain assure la reproduction de ses propres conditions d'existence en assurant celle du milieu commun tout entier. Et dans cette mesure-là, il s'agit de l'extension des droits des humains aux conditions biophysiques de leur existence. Voilà, merci beaucoup.